Messieurs, dames, bonsoir. Merci pour votre présence. On n'a pas beaucoup d'absents là ce soir autour de la table. Deux absents. Est-ce que parmi l'Assemblée, il y a-t-il des questions pour cette demeure citoyenne? Pas de questions. Bon, ben, on va ouvrir cette séance du Conseil municipal pour laquelle vous avez reçu une convocation en date du 23 mai. Donc ce soir, sur le nombre total des conseillers en exercice, 27, nous sommes 25 présents. Il y a une procuration de Lauriane Tissot qui a donné procuration à Edith Allard et une procuration de David Serioli qui a donné procuration à Frédéric Goujat. Donc il nous faut un secrétaire de séance qui veut assumer cette fonction. Lionel ? Bon, merci. Lionel Mella, désigné secrétaire. Donc la séance est ouverte. Nous allons procéder à l'état civil depuis la dernière. Les naissances, donc le 24 à Villa-Salanche, Léopold Vietès-Tual. Le 2 mai à Contamine-sur-Arve, Adam Ajana Mulhouse. Et le 4 mai à Salanche, Romy Lacote. Donc, ben, nous adressons tous nos voeux de bienvenue à ces nouveaux-nés et tous nos voeux de bonheur aux heureux parents. Les mariages, le 28 avril, Baptiste Royet et Émilie Silla. Le 9 mai, Vincent Perrière et Caroline Benavente. Le 19 mai, Paul Brouillard et Clémence Soquet-Juglar. Donc, nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et également à tous nos voeux de bonheur. Les décès. Donc le 6 mai à Saint-Gervais, Robert Allard. Le 12 mai à Passy, Alexandra Chalamel. Le 13 mai à Megève, Hugues Morand. Le 13 mai à Megève, Camille de Cormont, née Biétrix. Le 20 mai à Megève, Antoine Escriba. Le 23 mai à Megève, Raymond Frayère. Et le 27 mai à Megève, Valérie Rosalie Raymonde, Grosset-Janin, née Guyot. Nous adressons donc toutes nos condoléances à ces familles et toute notre sympathie pour ces départs. Et aujourd'hui, je suis très peinée parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on est encore parti dans une longue série de décès et de départs sur la commune. Et nous sommes très attristés par tous ces départs, jeunes comme personnes qui ont marqué Megève et qui ont fait l'histoire de Megève. Alors, nous avons reçu des remerciements de l'ANENA, du syndicat épique émulacier du Haut-Faucigny, Addiction Alcool Vie Libre et de l'Orchestre d'Harmonie et son école de musique de Megève, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour la subvention qu'il a été versée au titre du budget de l'année 2018. Des remerciements également de la société de l'IME Chalet Saint-André Championnet, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur avoir permis de vendre des crêpes sur le marché de Megève les 16 et 23 mars dernier. Le petit bénéfice réalisé permettra de mettre en place des projets éducatifs en fin d'année scolaire. Et puis également des remerciements de la famille Sepúlveda, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur présence, leur témoignage d'amitié, de réconfort et de gentillesse qui ont été exprimés lors du départ de José. Je vous rappelle que José a été pendant de longues années un agent et a travaillé pour la collectivité. Alors la délibération numéro 1, c'est une modification à l'ordre du jour qui vous propose de rajouter une délibération à l'ordre de ce conseil municipal. Et cette délibération concerne une convention de partenariat avec la CCI et la CMA pour accompagner la commune dans son positionnement économique. Donc, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Merci. Délibération adoptée. La délibération numéro 2, eh bien, elle concerne l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 24 avril et dont le rapport vous a été transmis le 30 avril. Y a-t-il des observations, des choses que vous souhaiteriez voir modifiées dans ce rapport qui vous a été adressé ?
Madame le maire, je vais donc répondre à Madame Grosset-Janin quant à ces questions par rapport au sports bar. J'avais promis que j'apporterais les réponses. Donc tout est bien séparé. Le chauffage, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont chauffés indirectement par la piscine. L'eau et l'électricité, donc ce sont des compteurs séparés. Et pour l'eau chaude, il va y avoir une mise en place d'un ballon. Voilà. Donc comme ça, c'est clair.
Donc par rapport à l'approbation du compte-rendu des comptes, des abstentions, merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 3, elle concerne le pôle communication événementielle, l'office du tourisme, Megève Combloux Pass 2018. Christophe Bougaud.
Il est proposé de reconduire le Megève Pass pour la saison estivale 2018 en réponse à la demande de la clientèle et de la volonté d'offrir des packs tout compris et particulièrement attractifs à nos visiteurs et notamment les familles. Le projet de convention proposé vise à offrir aux mêmes conditions tarifaires que 2017 des accès illimités aux remontées mécaniques de Megève, Saint-Gervais et Porte du Mont-Blanc, à la piscine et à la patinoire du Palais, ainsi qu'au lac biotope de Combloux. Ce pass offre en parallèle deux passages à la luge 4S et des réductions de 15% minimum auprès de quelques prestataires d'activité. Le contenu est identique à celui de 2017, hormis que le fait que le télésiège du Cré du Midi à Prats-sur-Arly a été remplacé par un deuxième passage à la luge 4S. Ce pass est nominatif et non cessible et sera vendu avec une validité de 7 ou 3 jours. La période d'utilisation sera du samedi 1er juillet au dimanche 2 septembre 2018. Il sera désigné comme étant le Megève Combloux Pass 2018. Megève assurera la coordination de l'opération à l'identique de la saison 2017. Ainsi, il est proposé de conventionner avec les différents partenaires de l'opération, soit la commune de Combloux, l'Office de tourisme de Combloux, la SARMM et la SEM des Portes du Mont-Blanc. La convention proposée a pour but de définir les modalités pratiques, financières et juridiques de mise à disposition des cartes d'accès de l'établissement, des tarifs, de la collecte des recettes et leur répartition. Le pass est décliné en 4 catégories, passe 3 jours adultes à 50 € TTC, passe 3 jours enfants à 40 €, passe 7 jours adultes à 70 € et passe 7 jours enfants à 50 €. Les passes offrent également deux passages en luge 4S et des réductions chez les partenaires. Les passes sont en vente dans les deux offices de tourisme, Megève et Combloux, ainsi qu'aux caisses du Jaillet, Port du Mont-Blanc. Les signataires feront intervenir leur propre personnel pour l'exécution de l'ensemble des missions mises à leur charge par la présente convention. Vente, contrôle d'accès, etc. Pour la vente sur ces différents points de vente, la commune de Megève, via son office de tourisme, mettra à disposition des différents partenaires les cartes d'accès et assurera une formation au personnel des différents points de vente. En annexe, vous avez la convention du Megève Combloux Pass 2018. Le conseil municipal est donc invité à approuver les tarifs du Megève Combloux Pass 2018 présentés ci-dessus, à autoriser Madame le maire à signer la convention annexée à la présente délibération, à autoriser Madame le maire à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération.
Donc, bien marché, ça y est, ça marche, il vient de grosser. Donc, avant, il y avait... Prats-sur-Arly était inclus dans le pass, donc ils n'y sont plus du tout, ce qui veut
c'est
dire...
C'est une volonté de leur part de D'accord. ne pas prendre part...
C'est eux qui nous avaient demandé d'intégrer,
D'accord.
Puis, par contre c'est eux qui aujourd'hui
ne veulent plus... Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut bénéficier d'un pass, mettons quelqu'un en villégiature à Prats-sur-Arly ou à demi-quartier... À droit au même prix que n'importe quel autre.
Absolument.
Voilà, non, mais c'est pour bien comprendre,
oui,
parce
oui.
qu'à un moment donné, les prix étaient tellement attractifs qu'on voulait aussi favoriser l'hébergement sur les communes partenaires. Alors, donc j'ai bien compris. Ce qui veut dire que ça prive personne de ce pass et que justement, s'il y a des gens qui viennent de la Savoie proche ou de la vallée de l'Arve, il n'y a pas de problème, ils pourront bénéficier de ces tarifs. Et après, pour la répartition, c'est fait comment ? C'est en pourcentage, par exemple, pour les remontées mécaniques ?
Vous avez...
Non, mais ouais, je n'ai pas trouvé.
Page 29. Hein ? Pas pour moi, mais je ne sais pas si...
C'est ça. Page 29. Donc, par exemple, le premier adulte 7 jours qui a 70 euros, on a la répartition de chacun des acteurs.
D'accord, je n'avais pas compris le tableau. Effectivement, c'est tout à fait clair.
Voilà.
Donc, il faut. Il n'y a pas d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va communiquer, parce que l'année dernière, c'était un petit peu ce qui nous avait été reproché. Donc, dans la prochaine lettre de Megève qui va apparaître, parce que tout le monde peut en profiter, donc les locaux aussi. Donc, il y aura un petit encart qui vous fera la publicité du pass, de façon à ce que le produit il profite un maximum aux habitants de Megève et aux locaux. Voilà. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 4 concerne le pôle finance programmation, budget principal 2018, décision modificative numéro 1, Frédéric Goujat.
Je vous informe qu'il convient d'ajuster les crédits ouverts au budget primitif 2018 de la commune de Megève en section de fonctionnement et d'investissement par décision modificative numéro 1, selon détails ci-dessous. Premièrement, en section de fonctionnement, inscription de crédits au compte 6711, pénalité sur marché pour travaux non réalisés dans le cadre de la restructuration du palais, crédit compensé par un montant provisionné et diverses recettes de refacturation. Deuxième aspect, les participations financières versées pour les manifestations sportives Coque d'Or et Haute Route sont à imputer au compte 6232 frais de relations publiques et non en subvention de fonctionnement comme prévu initialement au budget primitif. Troisièmement, en section d'investissement, inscription de crédit au compte 102-23 pour des trop perçus dotations en taxes locales d'équipement des exercices antérieurs et au compte 20-51 pour l'acquisition d'un logiciel destiné au pôle marché public. Ces crédits supplémentaires sont compensés par une diminution des crédits dépenses subvention d'équipement et par l'inscription d'une recette subvention en FDT. Donc, en dessous, vous avez le détail en dépenses et en recettes de fonctionnement pour l'équilibre de ces budgets. Donc, dans le détail, en ce qui concerne le premier point, l'inscription de crédit pour les pénalités sur marché, il y a un réajustement. On avait déjà provisionné la somme de 189 000 dans le budget primitif. On a un besoin supplémentaire en crédit de 52 800 euros. En ce qui concerne le point numéro 2, le Coq d'Or et la Haute Route, ce ne sont que une réaffectation d'écriture. Il n'y a pas de. Le budget initialement voté ne bouge pas. Donc, juste entre deux comptes, il y a un rééquilibrage qui s'opère. Et en ce qui concerne le point numéro 3 en section d'investissement, le trop perçu en dotation en taxe locale d'équipement, il était de 61 980 euros sur les exercices antérieurs. On a la subvention qui concernait, que nous avions touchée pour le Clos Joly, de 30 000 euros, et ainsi qu'un crédit...
Le Clos Joly, en fait, c'est dans le cadre du PLH, au niveau de la communauté de communes, on retouche un montant, mais qui théoriquement est destiné au bailleur social. Sauf que dans le cas du Clos Joly... La collectivité a quand même mis 290 000 euros pour que le projet puisse se faire. Donc, on n'a pas souhaité redonner cette somme au bailleur social.
Le troisième point, c'est
normalement, c'était le bailleur. Ce qui se pratique, c'est le bailleur social. C'est au choix de la commune. Et donc là, voilà.
Voilà, on estime qu'on a fait assez d'efforts budgétaires, en quelque sorte. Et le troisième point, c'est juste un besoin en matériel, en progiciel informatique. Et il y avait un besoin de 8 000 euros. Voilà. Donc, c'est pas une grosse DM, elle est toute petite. Voilà. Donc, le conseil municipal est invité à adopter la décision modificative numéro 1, budget principal 2018. Donner pouvoir à Madame le maire ou son représentant pour effectuer les formalités nécessaires.
Des contre ? Des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 5, pôle finance programmation, admission en non-valeur des taxes et produits recouvrables, budget principal pour les exercices allant de 2013 à 2017. Frédéric Goujat.
L'admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être effectué en raison de la situation des débiteurs, insolvabilité, partie sans laisser d'adresse, décès, absence d'héritier, du refus de l'ordonnateur d'autoriser les poursuites ou de l'échec des tentatives de recouvrement. Elle intervient donc après avoir épuisé toutes les formalités. Lettre de relance, mise en demeure, opposition à tirer les tenteurs, poursuite par voie judiciaire. L'Assemblée délibérante se prononce à la demande du comptable public sur l'admission en non-valeur des créances. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. La décision prise par l'Assemblée n'éteint pas la dette du redevable et ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuite. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l'action recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur revient à meilleure fortune. En ce sens, l'instruction codificatrice numéro 05050MO du 13 décembre 2005, portant sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et notamment son chapitre 3 du titre 7, précise « Alors que la remise gracieuse éteint le rapport du droit existant entre la collectivité et son débiteur, l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son débiteur. En conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les écritures de prise en charge du comptable, les créances irrécouvrables. L'admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Monsieur le trésorier principal a transmis un état de demande d'admission en non-valeur. Il s'agit de titres de recettes des exercices 2013 à 2017 qui n'ont pas été recouvrés malgré les procédures employées par la trésorerie principale. Monsieur le trésorier principal se trouve dans l'impossibilité de recouvrer ses créances dont le montant total s'élève à 8 811,33 € répartis comme suit. Donc vous avez le petit tableau avec les sommes réparties par année et les motifs des admissions en non-valeur sont les suivants. Donc, je vous fais grâce de la lecture de ce tableau. Chaque année, nous relisons le même. Ça, c'est pas le même contenu, mais les raisons pour lesquelles on a des non-valeurs, c'est toujours les mêmes. Il convient, pour régulariser la situation budgétaire de la commune, de les admettre en non-valeur. La dépense sera imputée au compte 6541 au budget ville de la commune de Megève sur son exercice 2018. Le conseil municipal est invité à arrêter le montant total des taxes et produits irrécouvrables admis en non-valeur à la somme de 8 811,33 €, imputer les dépenses au compte 6541, créances admises en non-valeur, donner pouvoir à Madame le maire ou son représentant pour effectuer les formalités nécessaires.
Bon, des questions, des observations ? Sur le tableau qui vous est présenté. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 6, elle concerne le pôle marché achat public, marché d'assurance responsabilité civile exploitant aérodrome. C'est une convention de groupement de commandes, approbation et autorisation de signer Frédéric Goujat.
La commune a souscrit à compter du 1er février 2014 et pour une durée de 5 ans. Un marché public de prestation de services d'assurance relative à la responsabilité civile exploitant aérodrome. Ce marché, dont le terme est fixé au 31 janvier 2019, a été passé dans le cadre d'un groupement de commandes constitué ponctuellement avec les membres de l'Union des aéroports français, UAF. Compte tenu de l'expiration prochaine du dit marché, l'UAF propose de constituer un nouveau groupement de commandes afin de lancer une nouvelle procédure de marché public commune à l'ensemble des membres. Cette procédure permettrait ainsi aux 10 membres de conclure pour le 1er février 2019 un nouveau marché d'assurance responsabilité civile exploitant d'aérodrome. Dans ce contexte, et afin de rechercher les meilleures conditions techniques et financières du marché, il est proposé au conseil municipal d'associer la commune de Megève au groupement de commandes créé entre les divers exploitants d'aéroports sur le fondement des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public. Il est à rappeler que ces dispositions permettent à des personnes publiques et privées qui justifient de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle, de coordonner et regrouper leurs achats dans le respect des dispositions du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relative au marché public, et ce, afin de réaliser des économies d'échelle. Le groupement de commandes est dépourvu de personnalité morale. Le projet de convention constitutive du groupement de commandes proposé par l'UAF est joint à la présente délibération. Ce document détaille les modalités de fonctionnement du dit groupement. Plus précisément, le projet de convention désigne l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en qualité de coordinateur du dit groupement. À ce titre, le coordinateur est chargé d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ses besoins, définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation, élaborer l'ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les membres, d'assurer l'ensemble des opérations de sélection du ou des candidats titulaires, rédaction et envoi de l'avis d'appel d'offres, public à la concurrence, et ainsi de suite. De notifier les décisions d'éviction aux candidats non retenus, d'informer les candidats retenus, transmettre aux membres les documents nécessaires à la passation des marchés en ce qui les concerne, d'assurer le conseil technique aux membres dans l'exécution du marché. Le coordinateur sera assisté par l'UAF dans le cadre de sa mission. Le projet de convention prévoit expressément que chacun des membres du groupement passera le marché pour son propre compte avec le titulaire retenu au terme de la procédure commune, étant ici précisé que les membres se réservent individuellement le droit de ne pas donner suite à toute ou partie de la consultation. Les frais relatifs aux procédures liées au marché, frais de publicité, reprographie, frais d'envoi, etc., seront pris en charge par les membres du groupement. Donc en annexe, vous avez la convention constitutive de groupement de commandes. Le conseil municipal est invité à approuver le principe de groupement de commandes défini dans l'exposé, approuver la convention constitutive de groupement de commandes annexée à la présente délibération, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention constitutive de groupement de commandes et à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'application de cette présente convention. Il se fait au niveau national.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 7 concerne le pôle marché achat public, principe de délégation de services publics, exploitation d'un service de petite restauration et de vente de boissons, chalet de la livre, approbation. Le service de petite restauration et de vente de boissons au chalet de la Livre a pour fonction d'animer le ski de fond, activité liée à la pratique du ski de fond, de la luge pour enfants et des promenades piétonnes. La destination de cet espace doit rester une salle hors sac avec des sanitaires accessibles à tous. Et depuis novembre 2015, il a été conclu avec la SARL d'Arbelot puis SAS LNA une délégation de service public simplifiée. Le contrat est arrivé à son terme fin du mois d'avril. Toutefois, le même type de délégation n'existe plus depuis le décret 2016-86 du 29 janvier 2016 relatif au contrat de concession. Donc il convient donc de relancer une nouvelle procédure pour poursuivre l'exploitation de cet équipement suivant les dispositions des articles L1411-1 à L1411-19 du CGCT. Au terme de la consultation et après négociation éventuellement avec le ou les candidats, il sera proposé au conseil municipal de conclure une nouvelle convention de délégation de services publics. Donc voilà, c'est la délégation de l'exploitation de la petite restauration qui est attenante au chalet de la Livre. On a eu un délégataire qui a apporté entière satisfaction pendant les 3 années qui viennent de s'écouler. Et donc, nous sommes obligés de relancer cette exploitation de petite restauration. Donc, il vous est proposé d'approuver le principe de délégation de services publics pour l'exploitation du restaurant du Chalet de la Livre, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à procéder au lancement de la procédure, et notamment à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, et d'accepter les caractéristiques de la délégation de services publics telle que décrite dans le rapport de la présente jointe à la délibération. Donc vous avez derrière le principe de délégation de service du SNAC du Chalet de la Livre. Donc des contre, des abstentions, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 8 concerne toujours le pôle marché achat public et là nous sommes sur une session de biens communaux. Laurence Hoquet.
certain nombre de véhicules ou équipements de la commune sont arrivés en fin de vie ou ne correspondent plus aux besoins des agents et des missions qui leur sont confiées. Par conséquent, il est proposé aux conseillers d'approuver la vente des biens figurant dans la liste suivante. Là, je vous laisse découvrir le tableau. Même si aucune obligation de publicité pèse sur la collectivité pour ce type de vente, la commune a pris pour habitude de procéder à la majorité de ses ventes via la plateforme de courtage par Internet AgoraStore. Ce système d'enchères électroniques permet, au travers d'un site Internet spécialisé en enchères, de toucher plus facilement un public à la fois suffisamment large et intéressé. Les ventes sont conclues systématiquement avec le plus grand, offrant et génère ainsi des recettes en toute transparence. Ce site est ouvert gratuitement à tous les acheteurs, particuliers, professionnels ou collectivités, préalablement inscrits. Pour cette prestation, la société AgoraStore se rémunère sur commissionnement correspondant à 7% du montant de la vente menée à son terme. En ce qui concerne la précédente vente, le lancement est intervenu le 14 mai et s'est achevé le 28 mai. Il est précisé que le conseil municipal, par délibération en date du 14 avril 2014, a chargé Madame le maire pendant toute la durée de son mandat de décider de l'alignation de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Par conséquent, les conseillers se prononcent seulement sur la cession des biens dont les enchères seront supérieures à 4 600 euros. Pour les autres ventes, une décision sera prise par Madame le maire. Une information sera communiquée aux membres de l'Assemblée délibérante lors de la prochaine réunion du conseil. Là, vous avez également donc le tableau avec les descriptions de biens qui ont été enchéris. Donc, le conseil municipal est invité à la sortie du patrimoine communal des biens et véhicules dont les enchères gagnantes sont supérieures à 4 600 euros, approuver la conclusion des ventes de biens et véhicules dont les enchères sont supérieures à 4 600 euros avec les personnes ayant remporté les enchères ou, en cas de désistement, avec celles ayant transmis la proposition immédiatement inférieure dans la limite du montant correspondant à la mise à prix sur AgoraStore. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document se référant à ces cessions. Et autoriser Madame le maire à percevoir les sommes au titre de ces ventes dans les budgets communaux au compte 775. Donc évidemment, ces ventes de véhicules ont lieu dans le cadre du renouvellement du parc des véhicules pour certains, et puis pour d'autres, eh bien, c'est parce que ces véhicules ne correspondent plus aux attentes des agents.
Des questions ?
On vend l'Univog.
Alors, l'Univog, il est vendu parce qu'en fait, c'est un véhicule qui a été acheté début 2014. Et ce véhicule, aujourd'hui, on s'aperçoit que les agents ne veulent pas s'en servir parce qu'il n'est pas adapté, en tout cas, aux souhaits des travaux qu'on doit réaliser sur le territoire communal. Ne voulant pas s'en servir, ils s'en servent uniquement l'hiver. Donc, c'est un véhicule qui travaille 3 mois dans l'année, donc il n'est pas utile de garder un véhicule de ce type. Non, ça c'est... Non, c'est un véhicule qui a coûté beaucoup plus cher puisqu'il est équipé, il était équipé de différents outils et c'était en globalité à 280 000 euros.
Oui. Ah bah oui.
Il a un petit peu travaillé Non,
parce qu'il y a des outils qui sont vendus séparément, qui seront vendus séparément ou qu'on garde.
Des contre ? Des abstentions ? Une abstention, Sylviane Grosset-Jeannin. Délibération numéro 9, elle concerne le pôle développement et aménagement durable, modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme, modalité de mise à disposition du public. Patrick Philippe.
Donc je vais vous épargner la lecture de toute la délibération, puisque c'est une délibération que nous avions déjà prise, qui a été abrogée lors du dernier conseil municipal, et qui porte donc sur la modification simplifiée du numéro 2 du plan local d'urbanisme, et donc et des modalités de la mise à disposition du public. Le seul point qui a été rajouté, c'est le point numéro 4, qui met en cohérence le règlement et les annexes sanitaires de ce règlement, puisqu'il est précisé, il y a quelques incohérences entre ce qui est écrit, à savoir le raccordement obligatoire au réseau d'eau potable et d'assainissement public, alors que dans certaines zones constructibles, on accepte les sources d'eau ainsi que le raccordement, enfin le raccordement, l'assainissement individuel. Donc, vu que ces modifications n'ont pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des règles du plan, de diminuer ses possibilités de construire, de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, il convient donc de corriger ces erreurs matérielles. La modification projetée étant parfaitement limitée à la correction d'erreurs matérielles, rentre dans le champ d'application de la procédure de modification simplifiée instituée par les articles L153-45 à L153-48 du Code de l'urbanisme. Compte tenu des éléments précédemment rappelés, il est apparu nécessaire d'engager une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Megève pour corriger ces erreurs matérielles dans le document local d'urbanisme approuvé le 21 mars 2017. En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L153-45 du Code de l'urbanisme, le maire a, par arrêté numéro 18/20/URB du 11 avril 2018, pris l'initiative d'engager la modification simplifiée numéro 2 portant exclusivement sur la rectification des erreurs matérielles susdécrites. Un dossier comportant le projet de modification, l'exposé de ces modifications est, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées doit être mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Les modalités de mise à disposition doivent, conformément à l'article L153-47 du Code de l'urbanisme, être précisées par le conseil municipal. Dans cette perspective, le public pourra consulter le dossier en mairie entre le 18 juin 2018 et le 18 juillet 2018 inclus, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune pendant toute la durée de la mise à disposition du public. Un registre sera ouvert pour permettre au public de consigner ses observations en mairie, lesquelles pourront également être adressées par écrit à l'attention de Madame le maire, par voie postale ou par courriel. À l'issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera alors clos et signé par le maire. Le bilan de la mise à disposition sera présenté au conseil municipal qui sera invité à approuver, par délibération, le projet de modification simplifié numéro 2, éventuellement modifié pour prendre en compte les avis émis par les personnes publiques associées et les observations du public. Des questions ? Donc vous êtes invité à fixer les modalités suivantes pour la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune. A. Les pièces constitutives du dossier de modification simplifiée numéro 2 accompagnées d'un registre d'observation seront mises à disposition du public en mairie de Megève, 1 place de l'église, auprès du pôle DAD, du 18 juin 2018 au 18 juillet 2018 inclus, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. B. Les pièces constitutives du dossier de modification simplifiée seront mises en ligne sur le site internet de la commune, www.megef.fr, la rubrique « Cadre de vie, urbanisme, plan local d'urbanisme ». C. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à l'adresse suivante, mairie de Megève, à l'attention du pôle DAD, boîte postale 23 74 120 Megève ou par mail à l'adresse mairie.megève@megève.fr. Préciser que le projet de modification simplifiée numéro 2, l'exposé de ses motifs, est, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées seront mis à la disposition du public. Préciser qu'un avis exposant l'objet de la modification simplifiée numéro 2 du PLU, le lieu, les jours et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations, sera publié au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie, ainsi que sur les 18 panneaux prévus à cet effet sur les maisons à ordures recensées par l'arrêté municipal numéro 16/03/URB du 23 juin 2016, dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Dire que le projet a été notifié pour information avant mise à disposition du public aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme. Dire qu'à l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et approuvera le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU de Megève, éventuellement pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Donc des questions par rapport à cette délibération que vous avez déjà approuvée, mais qui met en place la procédure d'enquête publique pour cette révision simplifiée. Des contre, des abstentions? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10, elle concerne le pôle développement et aménagement durable. Accroche de la fibre optique sur des supports de réseau aérien, mise en place d'une convention de droit d'usage sur la parcelle BC numéro 201 au Fabor. Patrick Philippe.
Dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie, le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique souhaite faire passer ses câbles sur la parcelle communale BC numéro 201 en bordure du chemin du Fabor. Les câbles seront accrochés au support de réseau aérien existant. Il est proposé d'autoriser le CIAN à créer le réseau de communication électronique sur la parcelle BC numéro 201 via la conclusion d'une convention de droit d'usage. L'autorisation d'occupation est acceptée et consentie sans indemnité. Vous avez en annexe le projet de convention de droit d'usage ainsi que le plan de situation. Je pense que vous avez déjà été sollicité pour ce genre de délibération et qui, à l'époque, n'avait pas sollicité de questions. C'est toujours le cas. Non.
Oui, moi j'ai une question, mais elle n'est pas tout à fait relative à cette délibération. Mais à savoir, comment ça va se passer avec la fibre optique, justement, là, c'est décrit la façon dont pratiquement tous les bâtiments pourront bénéficier de cette fibre optique, mais ça va être sur tout le territoire de Megève, parce que là, je vois par exemple les travaux dans la rue de la Poste.
Je pense que c'est déjà dans toute la Haute-Savoie. Il y a vraiment un projet de déploiement très important dans toute la Haute-Savoie. Et après, le raccordement sur le réseau numérique sera, j'imagine, proposé par les différents opérateurs.
Ah oui, parce que c'est pas forcément évident. Hein, parce que...
Le développement de la fibre optique se fait par les réseaux Orange. C'est-à-dire qu'emprunte, quand il y a des fourreaux, ils vont emprunter le passage par les fourreaux. Et quand malheureusement il n'y aura pas de fourreau, ils passeront en aérien au même titre que le téléphone pour apporter la fibre optique à toutes les personnes qui en feront la demande.
Oh, ça, c'est une belle avancée en tout cas.
En tout cas, là, on construit vraiment le transport, hein, c'est vraiment la partie transport, pas la distribution.
Des contre, des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 11, pôle développement et aménagement durable, échange de terrain entre les consorts Gachet et la commune de Megève sur les parcelles E numéro 1981 et F numéro 826, plan de l'eau Le Mât. Patrick Philippe.
La commune de Megève est propriétaire d'une parcelle cadastrée section F numéro 826, située au lieu-dit Le Mât, d'une surface de 81 mètres carrés, abritant un ancien réservoir d'eau qui n'est aujourd'hui plus en fonctionnement. La commune a été approchée par M. et Mme Gachet, propriétaires des parcelles limitrophes de l'ancien réservoir, afin de procéder à un échange avec leur parcelle cadastrée section E numéro 1981, localisée au lieu dit plan de l'eau, d'une surface de 107 mètres carrés située en bordure du Glapet. La commune de Megève est propriétaire des parcelles riveraines. Cet échange qui vous est proposé conclut sans soulte. Les frais d'acte sont à la charge de M. et Mme Gachet. Vous avez le plan de localisation à la fois du réservoir, où est localisé le réservoir, mais aussi les parcelles sur lesquelles vont s'établir les échanges. Peut-être apporter quelques éléments à la lecture de documents d'échange. Donc on voit le réservoir, on le voit assez bien sur la parcelle qui est route du Tour, et on en devine aussi sa délimitation. On devine un petit carré qui entoure le réservoir. Et puis ensuite, sur le document suivant, plan de l'eau, là, on voit aussi l'échange qui sera consenti par la famille Gachet et conclu entre la famille Gachet et la commune. Et en fait, l'intérêt porte à la fois sur le chemin qui, aujourd'hui, déborde largement sur la parcelle de M. et Mme Gachet. Donc ça permet, quelque part, une régularisation. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'on a aussi un ouvrage qui est le pont qui permet d'enjamber le Glapet, qui vient aussi qui est aussi adossé à cette parcelle. Donc ça permet à la collectivité d'avoir une meilleure maîtrise en tout cas du foncier sur ce secteur-là. Pardon ? Si, on le devine.
Tu vois où c'est marqué Glapet ?
Juste au-dessus.
On le voit. C'est comme un arc, en dessus de l'arc.
Voilà, et donc elle est en continuité des parcelles communales.
Donc des contre, des abstentions, délibérations adoptées l'unanimité. La délibération numéro 12 concerne toujours le pôle de développement et aménagement durable. Toujours un échange de terrain entre la SAS Plaine d'Arly et la commune de Megève sur les parcelles AB numéro 291 et 293, Plaine Saint-Michel. Patrick Philippe.
La commune de Megève a été approchée par la SAS Plaine d'Arly, propriétaire d'un chalet situé au 372 route de la Plaine, pour effectuer un échange de terrain entre la commune et la société afin de créer un rideau végétal isolant leur propriété de la parcelle communale sur laquelle sont implantés un chemin piéton, une piste de ski nordique et un pump track. Cet échange va permettre à la commune d'élargir le sentier reliant la route de la Plaine à la parcelle communale AB numéro 292. L'échange est conclu. Qui vous est proposé est conclu sans soulte. Les surfaces échangées sont identiques. L'ensemble des frais, géomètre, notaire et remise en état du chemin sont à la charge de la SAS Plaine d'Arly. Donc vous avez aussi en annexe le plan de localisation, le plan d'échange entre les parcelles numéro AN numéro 291 et 293. Alors là, il y a, j'ai envie de dire, par rapport à l'échange précédent, il y a encore plus d'intérêt puisque ça nous permet de renforcer notre maillage de réseau piétonnier. Et de nous permettre aussi d'améliorer l'aménagement sur ce chemin rural qui aujourd'hui est un petit peu en souffrance. Et je pense que du coup, ben voilà, on va avoir une belle liaison qui va se faire et qui va aussi permettre à la fois de relier la route de la Plaine avec les commerces qui se trouvent sur la route nationale, mais aussi qui va aussi permettre de desservir le pump track et puis l'accès aussi au tennis. Et au palais. Bien évidemment.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée l'unanimité. La délibération 13 concerne toujours le pôle développement et aménagement durable, constitution de servitude de passage avec Enedis pour la pose de canalisations souterraines et de coffrets sur la parcelle communale cadastrée section AM numéro 151, lieu-dit Megève. Patrick Philippe.
La société SINAT, mandatée par Enedis, a sollicité l'autorisation de la commune pour l'installation de 3 canalisations souterraines dans une bande de 0,40 m de large sur une longueur totale d'environ 2 mètres, ainsi que de 2 coffrets et ses accessoires sur le mur du bâtiment dénommé la Tour Maglin et, si nécessaire, de bornes de repérage sur la parcelle communale cadastrée section AM numéro 151. Il convient de constituer avec Enedis une convention de passage contre une indemnité de 15 € pour la durée de ces installations ou pour tout ouvrage qui pourrait leur être substitué. Tous les frais résultant de la création de la servitude seront supportés par Enedis. L'accord entre la commune et Enedis prendra dans un premier temps la forme d'une convention pour la pose de canalisation et des coffrets, puis sera régularisé par acte notarié pour son enregistrement au service de la publicité foncière. Donc vous avez en annexe le modèle de convention, le plan d'implantation des ouvrages Enedis, ainsi que le plan de localisation. Donc, vous êtes invité à approuver la constitution d'une servitude de passage pour l'installation de canalisations souterraines et de coffrets sur la parcelle communale section AM numéro 151, aux conditions exposées. Autorisez Madame le maire ou son représentant à signer la convention, puis l'acte de servitude, ainsi que tous les documents y afférents, et effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente. Énoncez que tous les frais découlant de cette servitude seront à la charge exclusive d'Enedis.
Donc, des questions, des contre, des abstentions, délibération adoptée l'unanimité. La délibération 14, elle concerne encore le pôle développement et aménagement durable, accompagnement de la commune dans son positionnement économique, convention de partenariat avec la CCI et la CMA. Et c'est la délibération que nous avons demandé de vous rajouter par rapport à la convocation et au projet de délibération que vous avez reçu. Patrick Philippe.
Depuis plusieurs années, la commune de Megève constate une forte montée en gamme de son hébergement touristique et des investissements privés. Dans un même temps, la population résidentielle décroît, les commerces du quotidien s'éloignent de l'hypercentre et l'intersaisonnalité s'accentue avec des creux de fréquentation de plus en plus marqués. Il convient de se questionner sur les possibilités de contrebalancer cette tendance afin de pérenniser la vie sur la commune toute l'année. Pour l'aider dans sa réflexion, la municipalité souhaite obtenir des éléments chiffrés et tangibles sur l'économie à l'image de son territoire afin d'agir pour un développement économique pérenne et équilibré. Ainsi, il est proposé de mettre en place une étude dont les objectifs sont les suivants. Analyse de la dynamique du tissu socio-économique du territoire à partir d'éléments concrets, statistiques, recensements sur le terrain. Analyse de l'image véhiculée par la commune station et son évolution au cours des dernières années, ainsi que l'évolution des communes stations ayant un positionnement territorial similaire. Co-construction avec les acteurs clés du territoire d'axes de développement stratégique. Cette étude a pour but de poser un diagnostic et de définir une stratégie d'accompagnement économique en vue notamment de l'arrivée de nombreux projets de développement touristique. Pour cela, la commune sollicite l'expertise de la chambre consulaire, des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, et de la chambre d'agriculture qui ont pour mission d'accompagner les territoires dans leur développement économique. Elles collaboreront techniquement et financièrement à l'élaboration d'un projet de territoire de la commune de Megève selon la convention ci annexée. La CCI prendra à sa charge 50% du coût global de l'action et la CMA 30%. Les 20% restants seront à la charge de la commune. La mission se terminera au plus tard le 31 décembre 2019. Un état des lieux sera fait de l'équipement commercial et artisanal, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'activité agricole, de la situation sociodémographique, de l'activité touristique, ainsi que de l'offre de services. Pour cela, la CCI et la CMA mettront en place des enquêtes avec les habitants, les résidents secondaires, les visiteurs et les acteurs socio-économiques, afin de définir la perception qu'ont les usagers de leur territoire. La définition des axes stratégiques de développement se fera ensuite en co-construction avec les acteurs clés de celui-ci par le biais d'entretiens et de réunions de créativité. Vous avez en annexe le projet de convention pour l'accompagnement de la commune de Megève dans son positionnement économique avec la CCI et la CMA.
Pardon.
Je pense que Madame le maire, vous avez peut-être quelque chose à dire sur ce sujet.
Simplement que c'est un projet un projet d'accompagnement qu'on a souhaité avoir par rapport à l'évolution aujourd'hui de l'économie et puis de la vie à l'année sur Megève. Vie à l'année, en fait, qu'on s'efforce d'essayer d'instaurer et de maintenir et qui n'est pas facile aujourd'hui par rapport aux contraintes qui s'imposent à nous avec cette pression foncière que nous vivons. Donc c'est pour ça que j'ai, depuis le début de notre élection, je me suis engagée à essayer de trouver toutes les pistes pour optimiser le maintien de notre population. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune aide et aucune loi de l'État qui nous permette d'agir pour avoir des retours et essayer de récupérer cette population qui s'en va. Donc c'est pour ça qu'hier, je me suis déplacée, j'avais écrit au ministère de l'économie pour essayer de trouver quelques pistes d'amélioration sur la fiscalité qui aujourd'hui est quand même un point impactant pour le maintien de notre population par rapport à la valeur vénale des biens qui sont sur notre territoire et qui sont transmis. Donc la démarche hier du ministère, dans un premier temps, elle avait été aussi travaillée pour essayer de sortir de l'IFI la résidence principale, puisque aujourd'hui chez nous, elle a vite un poids important par rapport à, je dirais, le prix du foncier. Donc cette démarche-là, elle n'a pas été, je pense qu'elle n'aboutira pas, parce qu'aujourd'hui, l'État avance qu'il y a une réforme de l'ISF qui est devenue maintenant l'IFI, qui a été faite dans un sens et sur lesquels ils ne modifieront pas les bases aujourd'hui du calcul de l'IFI. Donc j'ai même essayé de leur demander, puisqu'aujourd'hui il y a un abattement de 30% sur la résidence principale, d'essayer de le porter à 50%, mais ça va être compliqué. Et ça, c'est une démarche qui n'aboutira pas. Parce que bon, la réforme qui a été faite aujourd'hui, elle a sorti effectivement tout ce qui est placement, mais c'est une réforme de l'IFI et sur carrément qui est basée sur l'immobilier. Et ça, ils ne bougeront pas. Par contre, il y a une discussion qui a été plus constructive et qui risque de... Enfin, je ne veux pas dire qu'il vient d'aboutir, mais je veux dire, je ne suis pas repartie avec un point de non-recevoir, parce que j'ai quand même voulu sensibiliser les services de l'État sur les particularités de nos territoires de montagne, territoires touristiques avec cette pression foncière. Et aujourd'hui, je l'ai un petit peu dirigé sur les droits de succession, de façon à leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ces droits de succession étaient tellement élevés au regard de la valeur vénale des biens que, ben, on était en train de perdre notre population et que l'objectif, c'était d'essayer de maintenir cette population. Alors, sans faire des miracles et récupérer 50 habitants par an, hein, je ne pense pas et je ne crois pas y arriver. Mais leur expliquer qu'il faudrait peut-être qu'ils intègrent dans les droits de succession la réforme, enfin la taxation sur les droits de succession, de prendre cette spécificité particulière de nos territoires à pression foncière, hein, il n'y a pas que la montagne, mais c'est les zones touristiques, de considérer que les stations classées de tourisme, elles ont ces contraintes-là. Et donc la démarche risque d'avoir des échanges ultérieurs. Et justement, le ministère est très intéressé de recevoir cette étude sur le positionnement économique et par rapport à toutes les contraintes qui viennent impacter cette vie à l'année qui est indispensable et que nous souhaitons maintenir. Et puis les changements et les mutations qui s'opèrent tant au niveau des commerces que des investissements qui se font sur la station. Donc je vous le dis, la démarche va continuer, on va continuer à échanger avec le ministère pour essayer d'obtenir une dérogation sur les droits de succession en garantissant que le transfert des biens soit destiné à de la population, enfin à une vie à l'année pour de la résidence permanente. Donc l'État nous a entendus. Ils sont assez impressionnés de connaître ce qui se passe sur notre territoire, parce que je crois que j'avais fait des courriers avec des réponses qui m'étaient revenues, mais qui ne me portaient pas, qui ne me satisfaisaient pas. Mais c'est vrai que le fait d'échanger et de voir les gens en face, ils ont entendu aujourd'hui ce qu'était notre contrainte et cette problématique du maintien de la vie à l'année. Donc, il y a une amorce qui va pouvoir être travaillée. Je ne vous garantis pas, mais je vais persévérer pour essayer d'aboutir. Et puis, je serai obligée, contrainte d'aller voir un autre ministère parce qu'il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer sur le logement. Et aujourd'hui, les clauses antispéculatives qui viennent se positionner sur les logements aidés en acquisition et puis des plafonds qui sont trop élevés par rapport aux salaires moyens qui sont pratiqués sur la commune. Donc on avance, ces petites démarches, ces grandes démarches, nous permettront peut-être d'avoir des petites avancées pour essayer de récupérer quelques habitants, mais surtout, c'est des habitants locaux, enfin des gens qui vivent ici et qui sont obligés de partir par rapport à des transmissions de biens dont les droits sont trop élevés et oblige les familles à vendre leurs biens. Voilà. Donc le ministère est très attentif et nous nous sommes engagés à leur communiquer le résultat de cette étude sur le positionnement économique du village.
Moi, je voudrais simplement rajouter, Madame le Maire, s'il vous plaît, si vous me le permettez. C'est vrai que depuis qu'on a travaillé sur le PLU, et c'était déjà un engagement, en tout cas une volonté de votre part, de en tout cas tout mettre en œuvre pour maintenir la population permanente à Megève. Lorsqu'on a travaillé sur le PLU, on est venu y rajouter un peu de mixité sociale, ça nous était demandé, nous l'avons fait. Je pense aussi au logement aujourd'hui permanent qu'on est en train de construire sur Megève. Mais vous parlez de votre séjour à Paris, récent.
Ces jours,
un aller-retour à Paris, en tout cas la démarche. Moi, je voudrais quand même dire que cette implication de Madame le maire, elle ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle avait déjà rencontré le sénateur à ce sujet. Elle en avait parlé. Elle a vu aussi Madame Dion. Les deux sénateurs. Madame Dion. Mmh. Récemment aussi le député, notre député. Mmh. Et puis aussi donc le courrier dont vous avez fait mention il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas d'aujourd'hui que Madame le maire est inscrite dans cette démarche et qu'elle a la volonté en tout cas de tout mettre en œuvre pour avoir de la population permanente. Sauf que il faut bien comprendre c'est que ça passe effectivement par des points réglementaires qui doivent être légiférés en lieu et pas forcément que dans Megève parce qu'on n'y arrivera pas.
La règle elle ne peut pas être ciblée que Megève, mais il faudra bien que l'État intègre des zones touristiques. Oui, le gouvernement.
Moi, je voudrais juste rajouter une chose par rapport quand même à l'objet de la convention qui est signée avec les chambres consulaires, c'est que elle va avoir un réel intérêt pour l'ensemble de ce conseil de mieux comprendre en quelque sorte les grandes mutations qui se sont opérées sur le village depuis plusieurs années, parce que le constat d'aujourd'hui, il est là, c'est qu'on a sur les 50 ou les 30 dernières années, il y a eu beaucoup de mutations sur le plan économique et social, avec une baisse de la population, comme l'a expliqué le maire, et les mesures qui pourraient être mises en place. Mais sur le plan économique, il y a une énorme transformation du village sur ces dernières années. Et justement, c'est nous permettre, au travers le travail des chambres consulaires et surtout des acteurs économiques locaux qui doivent être associés à cette étude, de pouvoir mieux appréhender, parce qu'aujourd'hui, il y a des craintes, il y a des incertitudes, sur le devenir de Megève à partir des différents chantiers qui vont sortir dans quelques temps. Et il est vrai que cette mutation, on se rend compte que le centre-ville du village a complètement changé par rapport à il y a 10 ou 15 ans. On a une transformation des commerces et ainsi de suite. On a un déplacement de l'activité commerciale sur des axes plus périphériques. Et toutes ces questions qui se posent. Cette étude sera très intéressante. La remise de cette étude, ça devrait être premier trimestre 2019, c'est ça, Benoît ? Décembre 2019, pardon. Et donc devrait nous permettre de mieux appréhender et d'avoir une réflexion beaucoup plus large sur le Megève de demain. Et comment on allait pouvoir se préparer justement à intégrer ces nouveaux changements et ces nouveaux positionnements.
Fred, simplement, moi, je me permets de réagir, c'est pas nous permettre à nous d'appréhender, c'est de montrer quand même au gouvernement, aujourd'hui, la situation dans laquelle les stations de montagne ou les stations touristiques se trouvent aujourd'hui parce que rien n'est fait. Aujourd'hui, on a une perte de population alors qu'on a des infrastructures qui correspondent à une ville de 45 000 habitants et qu'aujourd'hui, on a, on va dire, 3 000 habitants permanents. Et donc, Madame le maire est consciente de ça, elle s'est inscrite dans cette démarche-là, c'est de faire remonter en lieu, et à travers notamment ce rapport-là, en disant, voilà aujourd'hui les mécanismes qui se sont mis en place, voilà la situation aujourd'hui, l'état des lieux de notre commune, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça qui est important. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on n'a pas les moyens d'agir. Non. Eux ont les moyens d'agir. Et c'est ça qui est important. Quand j'ai entendu, et pas plus tard que la semaine, je crois que c'était début de semaine, que le gouvernement va inscrire dans un texte de loi la possibilité aux jeunes de zones sensibles d'aller faire de l'apprentissage en dehors de leur commune, ça montre bien que ces problématiques-là, elles ne se traitent pas au niveau des communes, mais se traitent au niveau de l'État. Donc aujourd'hui, il y en a marre de voir la population permanente diminuer. Madame le maire met tout en œuvre pour faire changer ça, et j'espère qu'on aboutira.
Moi, je trouve très bien, Madame le maire, cette façon de procéder avec cette étude qui aboutira. Mais je pense qu'il faut aussi marcher aussi avec d'autres maires des stations déjà alentour, ne serait-ce que les Savoies, tous les maires qui sont...
Ah, toutes les stations concernées. Et cette démarche, j'ai même demandé à ce qu'on l'intègre dans l'acte 2 de la loi montagne. Sauf que personne ne m'a écouté. Donc voilà. Donc, la démarche aussi, quand on est allé voir un sénateur, il a comme attaché parlementaire un maire d'une commune comme nous, avec les mêmes problématiques. Donc je me suis dit, c'est très bien, au moins on va m'entendre, puisqu'il y a en face de moi, il y a un maire qui va pouvoir aider.
Et aujourd'hui, si je ne bouge pas, personne ne vient avec moi. Donc aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je prenne le bâton et que je parte, bâton de pèlerin, y aller toute seule. Voilà. Et bien après, par contre, effectivement, quand on a le rendez-vous au ministère, les voix arriver.
Moi, je me permets de réagir encore parce que je suis assez agacé sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, la loi Montagne traite notamment du déploiement de la fibre optique pour le tout numérique, l'accès au numérique. Elle traite aussi de la problématique du maintien des services médicaux dans les stations. Mais j'ai envie de dire, et la population, là-dedans, elle est où? Est-ce qu'on s'en occupe du maintien de la population permanente? On ne s'en occupe pas. Donc merci, Madame le maire.
Une question. En fait, pour le gouvernement, ce qui est important aussi, c'est le poids économique. Donc le poids économique, bien évidemment, nous on parle des touristes, et puis on parle des habitants de Megève, donc on parle de 3 000. Mais combien de personnes travaillent à Megève journellement, par exemple, lorsque c'est plein? Parce que ça, c'est aussi quelque chose... mettre en avant.
C'est ce que je dis, on est générateur d'emplois.
Est-ce qu'on connaît ce chiffre et est-ce qu'on est capable
et honnêtement, je crois que...
Pour ressortir ce poids économique, parce que les gens qui travaillent, c'est ça, hein, c'est ça le poids économique.
Ben justement, les gens qui travaillent, c'est ce que je dis et c'est ce que j'ai expliqué pas plus tard que l'autre jour au préfet, au sous-préfet. Aujourd'hui, nous, on crée des logements aidés. Il y a dans certains cas, il y a même des réserves préfectorales, il y a des réserves fonctionnaires et des réserves employeurs. Donc ces appartements-là, on n'en a pas la maîtrise. Donc sur certains projets, on a peut-être deux appartements, sur un projet de 11 appartements, on a deux appartements à notre disposition. Donc c'est ce que je dis. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, on fasse venir des gens de la plaine pour venir habiter ici? Ils sont obligés de repartir travailler dans la plaine et que nous, nos propres habitants, sont obligés d'aller se loger dans la plaine parce que le coût de la vie est trop cher. Mais par contre, ils reviennent travailler sur le... Donc, il y a ce système de pendulaire qui fait qu'il y a des va-et-vient sur le territoire, donc qui ne va pas non plus dans le sens de l'environnement, puisqu'aujourd'hui, on nous parle d'un plan de protection de l'atmosphère. Mais aidons-nous aujourd'hui à travailler intelligemment et puis à comme tu le dis, François, il y a des gens, il y a un poids économique qui est là avec un volume d'offres d'emploi qui est conséquent. Et c'est vrai que tous ces projets aujourd'hui qui vont voir le jour, ils vont générer encore de l'emploi sur le village. Eh ben, c'est ce qui va nous aider à ressortir de...
Et aujourd'hui, on a une idée quand même. Par exemple, je prends un exemple, le 28 décembre, combien de personnes travaillent à Megève? C'est ça ma question.
Ben, c'est le but de l'étude, un peu.
Voilà. Non, mais aujourd'hui, on n'a pas d'idée là-dessus. C'est une question.
Je pense que c'est des chiffres.
Effectivement, cette étude est importante aussi pour ça, pour faire ressortir ce poids économique des travailleurs, parce que ça, c'est pas anodin. Hein.
L'étude, elle a trois grands axes. Le premier, c'est l'étude socio-économique du territoire. Le deuxième, c'est analyser l'image qui a été véhiculée par notre commune station et établir un comparatif avec d'autres communes stations. Pour voir l'évolution et déterminer un positionnement justement par rapport à cela. Et enfin, pour terminer, le troisième point, c'est construire avec les acteurs économiques locaux les axes de développement stratégiques pour le futur. Il y a deux aspects, et je comprends bien ce qu'a dit Patrick, on est d'accord. Il y a l'aspect maintien de la population locale et de nos habitants sur le territoire. Ça, c'est un aspect fondamental, bien évidemment. Et après, c'est justement, pour répondre à ta question... Il y a plein de données, parce que ça fait partie des interrogations, effectivement, par rapport au tissu économique local. Aujourd'hui, il est surdimensionné en termes de population travailleuse par rapport à notre population. Ça, c'est une évidence même, puisque notre population locale ne peut pas, on est une des rares communes d'ailleurs, une commune presque unique, à avoir, c'était un entretien qu'on avait avec Madame le maire aujourd'hui, justement, autant d'offres d'emploi pour nos habitants. C'est quand même étonnant qu'un habitant de Megève ne puisse pas trouver d'emploi à Megève. en saison, je parle en saison, je ne vous parle, on est une activité saisonnière. Non, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que en saison, en activité touristique normale, il n'est pas normal d'avoir des enchômages sur le territoire de la commune. Non.
Voilà. Donc des contre, des abstentions. Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 15, elle concerne le pôle famille, enfance, éducation, petite enfance et convention partenariale, la HEP. Nadia Arnaud-Prin.
Le lieu d'accueil enfants, parents des secteurs de Megève,
s'il vous plaît, un peu d'attention.
Demi-quartier et Pras-sur-Arly est ouvert depuis le 1er décembre 2015. Septembre. J'ai dit décembre. Le 1er septembre 2015, c'est un lieu de ressources pour les parents de jeunes enfants qui peuvent se rencontrer et échanger de manière libre et sans inscription en présence de leurs enfants de moins de 6 ans. Le LAEP est labellisé par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie et est soumis à la réglementation des services de protection maternelle et infantile. Pour rappel, il est ouvert dans les locaux de la crèche touristique de Pras-sur-Arly, située 195 route de Megève. L'accueil est gratuit pour les familles les mercredis matins, les mardis matins, de 9h à 11h en intersaison, hors vacances scolaires, dans la limite de 7 familles par séance. Deux accueillantes sont présentes par séance. Dans le cadre des rencontres entre la PPMI de Sallanches et le service petite enfance de la mairie de Megève, et suite à l'ouverture d'une permanence PMI, tous les mois sur la commune de Megève, le département de la Haute-Savoie propose de mettre à disposition une infirmière du pôle protection maternelle et infantile, promotion de la santé, afin de créer un partenariat entre professionnels d'un même secteur géographique, mener une action de prévention primaire et croiser les regards des différentes professions. L'infirmière de PMI serait présente à raison d'une matinée par mois au sein du LAEP. Elle participerait aux séances de supervision et serait formée à la posture d'accueillante. Une fiche projet est annexée à la délibération ainsi que la convention partenariat d'une durée d'un an renouvelable à l'issue de son évaluation. La commission départementale s'est réunie le 2 mai 2018 pour valider ce projet. Donc en annexe, vous avez la fiche d'intervention. Le conseil municipal, exposé du rapporteur entendu, est invité à approuver la convention de partenariat entre le département de Haute-Savoie et la commune de Megève, autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'application de cette délibération.
Cette délibération, elle va être dans une amélioration du fonctionnement du LAEP et donc elle a tout son sens dans l'intérêt des enfants et des familles. Donc, qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 16 concerne le pôle famille, enfance, éducation et la création et la gestion d'un LAEP. Nadia Arnaud-Prin.
Alors, par contre, je suis désolée, ce n'est pas la création et la gestion d'un LAEP, c'est le service enfance et un règlement de fonctionnement. La même délibération. Modification du règlement de fonctionnement. Cette délibération, elle a été déjà faite le 27 mars pour la grande crèche. Et là, en fait, c'est la mise à jour du règlement de fonctionnement pour la micro-crèche qui fait suite au changement de qualification du personnel, de l'âge minimum pour l'entrée en collectivité, de la législation concernant le nouveau calendrier vaccinal et la possibilité de double facturation en cas de séparation ou de décision de garde alternée. En fait, on avait déjà validé celle-ci pour la grande crèche. Et là, la seule différence, c'est que c'est pour la micro-crèche qui n'avait pas été faite le 27 mars.
Bon, bah merci Nadia. C'est donc la validation du nouveau règlement de la micro-crèche par rapport aux adaptations qui ont été apportées pour gérer cette micro-crèche en toute légalité. et avec les contraintes qui s'imposent, avec les nouvelles vies.
Avec à chaque fois les réglementations, surtout pour les petits qui changent d'année en année.
Voilà, des contre, des abstentions.
Oui, je m'abstiens, moi, pour le, en raison du point 4, qui est issu, bien sûr, d'une loi, mais pour laquelle, de conviction, je ne peux pas lever la main en disant OK à tout. Voilà.
Ah, OK. Donc, une abstention, Sylviane Grosset-Jeannin. Donc, la délibération numéro 17, elle concerne toujours le pôle famille, enfance, éducation, la modification du règlement de fonctionnement périscolaire pour l'année 2018-2019, et c'est Marika Buchet.
Donc, également une mise à jour donc, du règlement périscolaire, puisque la commune est soumise à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, ainsi qu'à la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Donc, ce règlement de fonctionnement a pour but de fixer les conditions d'accueil, de facturation, d'organisation du service pour tous les temps avant et après classe. Donc, sur le règlement de fonctionnement qui est joint, on a surtout des rajouts. Donc, sur la page 2 du règlement, donc, on précise donc, le service de navette qui est organisé aux écoles pour les enfants inscrits aux activités extrascolaires. Donc, mentionnant la prise en charge du transport à pied ou en bus assuré par le service, par le personnel pardon, du pôle famille, enfance, éducation, et ainsi qu'un temps de goûter qui est proposé avant le démarrage de l'activité. On précise aussi que certaines familles prennent la responsabilité de faire récupérer leurs enfants au périscolaire par un grand frère ou grande sœur inscrit au collège. Et de ce fait, on tient à s'assurer de l'accord des familles et une autorisation sera rendue obligatoire. En page 3, on précise, pareil que dans les autres règlements mentionnés par Nadia Arnaud-Prin, qu'on facilite donc les facturations pour les familles séparées et que la double facturation est accordée même avant les décisions de justice. Afin de limiter un petit peu les retards, les réservations de dernière minute, on appliquera une surtaxe d'un euro pour permettre de réguler et de limiter le nombre et surtout de ne pas être en défaut par rapport à la législation et au taux d'encadrement. Également, la facturation étant dématérialisée, tout retard sur facture sera signalé également maintenant par l'envoi d'un SMS et d'un email. Donc, en annexe ce fameux règlement, et vous êtes conviés à accepter le nouveau règlement de fonctionnement du périscolaire pour une application dès la rentrée 2018-2019 et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les formalités nécessaires à l'application de la présente délibération.
Donc, qui est contre ou qui s'abstient par rapport à ces modifications de règlement ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 18, elle concerne le pôle ressources humaines, emploi et compétences, stage professionnel étudiant, attribution d'une gratification, Jocelyne Co.
Dans le cadre de la convention de stage à établir avec l'école, M. Laune sera accueilli au sein du pôle COMEV pour effectuer un stage de formation professionnelle dans le cadre de ses études du 14 mai au 10 août 2018. Considérant que la durée du stage sera supérieure à 2 mois, il est proposé de lui octroyer une gratification dont le montant reste à déterminer. Vous êtes invité à décider d'attribuer à M. Laune une gratification d'un montant de 3,75 euros brut par heure réellement effectuée pour sa période de stage. Autorisez Mme le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités correspondantes. Indiquez que les crédits seront imputés sur le chapitre 12.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 19, c'est la même, mais pour un autre étudiant. Donc, c'est toujours une attribution de gratification. Jocelyne Co.
Alors, l'étudiant sera accueilli au sein du pôle DAD pour effectuer un stage de formation professionnelle dans le cadre de ses études sur une période de juin à septembre 2018. Considérant que la durée du stage sera supérieure à 2 mois, il est proposé de lui octroyer une gratification dont le montant reste à déterminer. Vous êtes invité à décider d'attribuer à l'étudiant une gratification d'un montant de 3,75 euros brut par heure réellement effectuée pour la période de stage de juin à septembre 2018, sachant que les dates pourront être modifiées. autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités correspondantes et indiquer que les crédits seront imputés sur le chapitre 12.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée d'unanimité. Et c'est la 20e délibération, donc la dernière de ce conseil municipal qui concerne le pôle ressources humaines, emploi et compétences. Là, il s'agit du recrutement d'agents contractuels sur un emploi non permanent dans le cadre des besoins liés à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité. Jocelyne Coe.
Au terme de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs et ou un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Vous êtes invité à créer un poste à temps complet au sein du pôle sport en tant qu'agent polyvalent glacier du 1er août au 30 novembre, créer un poste à temps complet au sein du pôle eau en tant qu'agent polyvalent releveur des compteurs d'eau du 2 juillet au 31 août, créer un poste à temps complet au sein de la DGAE, un référent opérationnel du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019, supprimer deux postes à temps non complet au sein du pôle sport, animateur base de loisirs, agent d'entretien des abords, du 11 juin 2018 au 16 septembre 2018, et créer un poste à temps complet au sein du pôle sport en tant qu'agent polyvalent du 11 juin au 16 septembre 2018. Sachant que les deux postes que je vous ai nommés là étaient à temps non complet et c'est remplacé par un temps complet. Préciser que la rémunération des saisonniers se fera conformément à la délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2017. Autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité pour faire face aux besoins saisonniers d'activité et ou d'accroissement temporaire d'activité précité. Indiquer que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chapitre 012.
Des contre, des abstentions ? Eh bien, merci, la délibération est donc adoptée et ben, merci pour votre présence ce soir autour de cette table pour cette séance du conseil municipal. Juste vous rappeler, le prochain conseil municipal, faites bien attention, il va changer exceptionnellement pour une fois de soir, ce sera un lundi soir, c'est le lundi 25 juin. Et puis celui du mois de juillet est programmé pour le 31 juillet, mais on repart sur les mardis. Voilà, et puis pour une petite info là, qui me perturbe juste avant la séance du conseil, y a les médias qu'on avait souhaité mettre en place pendant la période de la Coupe du Monde, un écran géant sur la patinoire extérieure. Et malheureusement, enfin, ce qui me gêne un peu, c'est que ce sont les médias qui nous informent avant la préfecture. Ils nous informent qu'il n'y aura pas d'écran géant sur les espaces publics. Donc voilà, on va être obligé d'annuler notre plan de l'été. Voilà, un des plans de l'été. Mais bon, ce qui est malheureux, c'est qu'on l'apprend par les médias avant de l'apprendre par la préfecture.
Oui, c'est ça, on pensait à ça, Joss. On a trouvé nos crédits.
Voilà, bah écoutez, voilà, il faut positiver. Bon, bah merci beaucoup, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Il y a une réunion publique concernant l'installation des containers enterrés, donc jeudi 31, mais je ne serai pas là, hein, donc voilà, non, je suis désolée, mais elle a été fixée, mais on savait que je ne serais pas là. Hein. Mais il y a Laurent, Edith, enfin, il y a les gens en connaissance du dossier qui seront là pour répondre à toutes les questions. Bonne soirée, merci et à bientôt.